OK, alors on est dans le cours L'Esprit Saint et vous, question pratique. Nous sommes en train de voir ce matin la leçon 5 pour ceux qui écouteraient l'enregistrement audio. Et puis les notes se trouvent aussi sur le site Internet. On va aller tout de suite dans un mot de prière. Père éternel, merci pour cette grâce d'être habité par ton esprit. Seigneur, c'est à la fois une grâce qu'on mesure, qu'on goûte lorsque nous regardons la vie des gens qui ne te connaissent pas. Nous voyons bien, Seigneur, l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs. Lorsque tu nous accordes des moments de repentance profonde, Seigneur, nous voyons l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs quand nous sommes animés d'une passion pour toi, d'une passion pour l'avancement de ton royaume, nous voyons aussi l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs. Et à d'autres moments, Seigneur, cette œuvre est mystérieuse et nous voulons comprendre, nous voulons collaborer, nous voulons travailler avec l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous voulons être sensibles à cet Esprit qui est saint, qui est pur, qui est parfait, cet Esprit de Christ qui habite en nous. Je te prie de bénir ce temps ce matin, Seigneur, dans ce passage. Anime en nous, Seigneur, le désir d'être constamment en communion, constamment rempli de l'Esprit, soucieux de ne jamais l'attrister, prompt à se repentir lorsque nous attristons ton Esprit. Je te prie, Seigneur, de clarifier ces choses dans notre tête, mais aussi de nous donner un désir de marcher dans cette grâce. Et c'est une grâce, Seigneur, parce que cette semaine, nous avons tous péché d'une manière ou d'une autre. Et en ceci, probablement que nous avons attristé ton esprit et pourtant nous sommes scellés de ton esprit. Il ne nous a pas quittés, ne nous a pas abandonnés. Alors c'est une grâce de pouvoir se repentir et te demander encore une fois de nous remplir, de nous conduire. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Mr. Gunsky, if you would like, do you read French at all? Okay, so did you get the notes? Est-ce que quelqu'un pourrait apporter une copie des notes à Monsieur Gonski? Somebody will bring some for you. This might help a little bit. Alors, la semaine dernière, est-ce que quelqu'un pourrait juste me mentionner, je vais vous rafraîchir la mémoire, on était dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22. Quelqu'un pourrait me mentionner en 30 secondes, ce que nous avons vu la semaine dernière à partir de ce passage. Comment on l'a compris? Vous l'avez dans vos notes, là, je vous l'ai remis, 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22, « N'éteignez pas l'esprit ». Quelqu'un qui pourrait me résumer ce qu'on a compris de ce passage-là? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. OK. 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 C'était pas tout à fait ça, mais c'est comme ça qu'on fait référence généralement à ce passage-là. Je vais juste répéter ce que Mme Sonia a dit. Éteindre l'esprit, ce serait lorsqu'on pêche et qu'on ne laisse plus le Saint-Esprit travailler dans nos vies. Il y a du vrai, là, mais dans le contexte, on est allé un petit peu plus loin. Oui. OK, OK. Alors, on a fait une distinction entre la prophétie dans l'Ancien Testament, le prophète qui parlait avec l'autorité de l'Éternel, et ce qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament où ça demande d'être examiné. Quelqu'un d'autre qui veut essayer de nous résumer en gros? Oui, Sylvain. OK, OK. Alors, Sylvain dit, une des choses qu'on a vues la semaine dernière, c'est que le Saint-Esprit peut être en train de faire une œuvre, et lorsqu'on refuse, lorsqu'on rejette cette œuvre-là, on est en train d'éteindre l'œuvre qui est en train de faire au milieu de nous. Et c'était surtout cet élément-là que je voulais faire ressortir la semaine dernière. Et cette semaine, on s'en va dans Éphésiens 4:30, où il nous est donné comme directive de ne pas attrister l'esprit. Et là, ce qu'on va voir ce matin, ça va un petit peu plus dans le sens de ce que Mme Saunier avait dit. Alors, je vous demanderais d'essayer de placer ces deux passages-là dans votre compréhension et de faire les nuances. Dans le cas d'un Thessaloniciens 5, Paul semble être en train de mettre en garde les églises de ne pas s'opposer à une œuvre de l'esprit au sein de l'Assemblée. D'accord? Si on relit juste le passage, vite, vite, 19 à 22, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Et donc, je vais essayer de résumer un peu qu'est-ce que c'est éteindre l'esprit en disant exactement ce que Sylvain vient de dire. Dieu est en train de faire une œuvre au milieu de l'Assemblée. Dieu est en train peut-être de me parler pendant une prédication, un frère qui vient me voir. Hein, on avait brossé un petit peu le tableau de ce que c'était les prophéties. Là, je vais vous laisser retourner aux notes pour ça. Mais Dieu est en train de faire une œuvre et moi, je résiste à cette œuvre-là. Et ça, c'était pas mal le contexte de 1 Thessaloniciens 5. C'est facile dans notre... Des fois on se met à se servir de mots dans la Bible à tout propos, à tout moment. Puis ça amène une certaine confusion. On va mêler ces idées-là, puis on perd certains éléments de la richesse qu'il y a dans la parole. Et donc, ce serait facile pour nous d'associer très, très vite attrister l'esprit avec éteindre l'esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, l'idée d'éteindre l'esprit semble vraiment être l'idée de m'opposer à une œuvre de l'esprit qu'il est en train de faire. D'accord? Et une des applications pratiques, évidemment, ça veut dire que l'esprit est en train de travailler à travers son assemblée. Quand je me rassemble dans un petit groupe, quand je m'en vais prendre un café avec un frère, avec une sœur pour s'édifier mutuellement, lorsque je m'en viens dans la grande assemblée tout spécialement, l'Esprit est en train de faire une œuvre. Est-ce que je suis là disponible pour voir ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu voudrait me dire? Ou est-ce que je m'en viens un petit peu détaché de tout ça? Par habitude, je m'en viens écouter des enseignements, puis ouais, c'était bon ce matin, c'était pas bon ce matin. La question, c'est pas vraiment de savoir si c'était bon ou si c'était pas bon. C'est qu'est-ce que l'Esprit faisait au milieu de nous, ou est-ce qu'on l'a tellement attristé, éteint, tout ça, que finalement, il ne fait rien au milieu de nous, peut-être. Bon, peut-être. Mais qu'est-ce que l'Esprit est en train de faire au milieu de nous ce matin? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ma vie à travers notre assemblée ce matin? Et lorsque je quitte, c'est beaucoup plus à propos de poser la question, qu'est-ce que l'Esprit voulait faire comme œuvre dans ma vie? Est-ce que j'ai discerné ce qu'il est en train de me dire à travers les louanges? J'ai été ramené à la croix, j'ai été ramené à Christ. C'est l'Esprit Saint qui est en train de m'édifier. Est-ce que j'étais sensible à ça ou est-ce que j'étais dans une espèce d'évaluation de dire « Ouais, c'était bon, c'était pas bon ce matin. » D'accord? 1 Thessaloniciens 5. Là, ce matin, on se tourne vers Éphésiens 4, verset 30. Est-ce que ça clarifie un petit peu la nuance entre les deux passages? Oui, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est vraiment pas clair encore? Juste lever la main puis je vais essayer de le clarifier. Ça va? Alors, Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Que toute amertume, je continue juste un verset de plus, deux versets en fait. « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Voici quelques questions qu'on devrait se poser lorsqu'on arrive devant Éphésiens 4, 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Qu'est-ce que ça veut dire attrister l'Esprit? D'accord? La question la plus grosse question qui a été posée à travers l'histoire de l'Église, c'est « Pouvons-nous vraiment attrister Dieu ou son esprit? Pouvons-nous affecter émotivement l'esprit de Dieu? Est-ce que l'être humain a vraiment un impact? Puis là, le Saint-Esprit s'en va, il est triste. Là. Il est triste, j'ai fait une grosse peine. Quand je suis sarcastique, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand mon épouse m'attriste, moi, parce qu'elle me fait un commentaire, je ne sais pas, un peu raide ou quoi que ce soit, mais je suis tout bouleversé là à l'intérieur. Là. Si vraiment je suis attristé, il y a quelque chose dans mon cœur. Est-ce que vraiment on peut avoir cet impact-là sur l'esprit ou c'est juste une figure de style ici dans le langage? Donc ça, c'est une très bonne question à se poser. Comment attriste-t-on l'esprit pour être plus pratique et comment se garder d'attrister l'Esprit Saint? D'accord? Ça, ce sont de bonnes questions à se poser pour essayer de voir après comment on applique cette directive-là de Paul dans nos vies. Oui. Mais vous allez les dire, là. Je vous taquine. Vas-y. Oui. 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 Quelqu'un qui va blasphémer. Ben, le péché impardonnable, on en a parlé à la première leçon, si je ne me trompe pas. Fait que ça, vous pourriez juste regarder les notes. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme impact si un individu est en train de blasphémer, admettons? C'est ça que vous voulez dire? C'est sûr qu'il va l'attrister. Là. Je suis en train de vous dire ce que je comprends de l'attrister. Ça, c'est certain. Non. 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 Et si vous retournez à la première leçon, vous allez le voir. C'est pas ça. On a essayé de définir c'est quoi le péché impardonnable, quelque chose. Non, d'autant plus que la personne qui est en train de le faire est probablement non chrétienne. Ça pourrait arriver qu'un chrétien s'échappe, mais probablement non chrétienne, donc est déjà condamnée, là. D'accord? Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, là, puis je ne vais pas rentrer dans tout ce débat-là, ce passage-là, de la manière qu'il a fait, qui a suscité le plus de commentaires de la part des théologiens à travers l'histoire, c'est cette question de est-ce qu'on a vraiment un impact comme ça sur Dieu? D'accord? Est-ce que vraiment on peut affecter Dieu à ce point-là, l'être humain? Est-ce que ça, excusez-moi le terme, est-ce que ça fit? Est-ce que ça concorde avec la manière que Dieu nous est présenté? Peut-on avoir un tel impact sur la personne de Dieu? Il y a beaucoup de théologiens à travers l'histoire de l'Église qui ont dit non. C'est juste une figure de style ici. Dieu a déterminé ce qu'il allait faire et Dieu poursuit cette course-là. Puis Dieu est en train de faire ces choses et Jean Calvin voyait ça comme ça, Martin Luther, des personnages vraiment importants. On a appelé ça la doctrine, j'entrerai pas dedans, là, ce serait vraiment trop technique, là, mais on a appelé ça la doctrine de l'impassibilité de Dieu. Dieu est impassible, il n'est pas affectable par les choses que nous, on pourrait faire. Dieu ne peut pas être bouleversé par l'homme. Ça serait pas Dieu comme attitude. Et ils vont affirmer ça sur la base du fait que Dieu accomplit toujours ses desseins. Dieu demeure le même, Dieu ne change pas. Il y a plusieurs passages qui nous disent que Dieu ne change pas, il est exactement le même. Donc, il a déterminé ce qu'il allait faire. Maintenant, la question qu'on se pose lorsqu'on adopte cette position-là, c'est si l'Esprit-Saint ne peut pas être attristé, de quoi on parle ici? Si ce n'est pas vraiment ça, il n'est pas vraiment attristé, de quoi on est en train de parler? Est-ce que vous comprenez un petit peu l'enjeu? Vous avez Dieu qui est Dieu. Est-ce que l'être humain peut faire changer les idées de Dieu? Pardon? OK. Donc, il y a des textes qui vont dans ce sens-là. OK. Madame Soulière? OK. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait lorsqu'on pêche volontairement. Maintenant, ma question, c'était, est-ce qu'on peut faire changer les projets de Dieu, affecter les émotions de Dieu, puis Dieu est tout à l'envers, puis j'ai attristé l'esprit, fait que là, il s'en va, il est tout tristounet, le Saint-Esprit. Il file plus, là, parce que là j'ai péché, puis là, il est tout à l'envers. Donc, Dieu n'est pas surpris par le péché. Dieu avait ses projets, avait ses desseins. OK, je vais juste répéter. Donc, on attristerait l'esprit quand même en péchant parce qu'il n'est pas heureux avec notre décision de pécher. Est-ce que vous voyez un petit peu que ce n'est pas une question qui est simple? Dieu détermine des desseins, Dieu a des projets. Je veux juste vous démontrer que ce n'est pas une question qui est juste pour les théologiens. Lorsque vous lisez votre Bible, puis vous lisez que Dieu a déterminé ses desseins, puis Dieu accomplit toutes choses selon ses projets de sa volonté, puis là, vous passez par une épreuve. Puis là, à un moment donné, vous priez pendant un mois. Tu sais, j'ai un cancer, puis je prie pendant un mois. Je prie pendant deux mois. Puis là, je tombe sur un passage comme ça qui dit que Dieu accomplit toutes choses selon les desseins de sa volonté. Mais là, à un certain moment donné, il y a une pensée qui vient à moi qui dit, « Ouais, mais je ne suis pas sûr que ça vaut la peine de continuer à prier. » Parce que Dieu va accomplir ses desseins de toute façon. Parce qu'il y a des passages qui disent ça. Puis là, vous comprenez, ça devient pratique. Ça devient une question pratique. Mais là, je dis, est-ce que vraiment je peux altérer? Est-ce que j'ai vraiment un impact? Est-ce que ma prière a un impact sur Dieu? Est-ce que Dieu avait juste comme prévu toutes les requêtes que j'allais faire? Puis là, il avait dit, ah, celle-là, il va prier assez longtemps. Michel ne se découragera pas de prier. Celle-là, je vais l'exaucer. Mais celle-là, Michel, il va arrêter après un mois. Fait que je ne l'exaucerai pas. Voyez-vous, c'est mystérieux. Vous comprenez? Je comprends, mais on n'a pas toutes les réponses. Je comprends, mais on n'a pas toutes les réponses. Alors, je vais juste prendre deux phrases que vous avez dites. Je vais juste prendre deux phrases que vous avez dites, Mme Soulière, pour illustrer là où le mystère se situe. Dieu a un plan. Puis Dieu laisse l'homme libre de répondre. Fait que si Dieu avait un plan, puis Dieu laisse l'homme libre, comment ça marche? Il y avait un plan, puis Dieu laisse l'homme libre. Fait que l'homme vient affecter les plans de Dieu. C'est un mystère. D'accord? C'est un mystère. Absolument. Absolument. Absolument, Mme Soignier. Alors, Mme Soignier nous rappelle dans Jacques qui nous a dit que si on demande mal, on ne reçoit pas, mais donc on pourrait recevoir si on demandait bien. Je voulais juste vous montrer que ce n'est pas juste des discussions pour Jean Calvin, Martin Luther, puis Yannick Étier lorsqu'il trippe dans ses livres de théologie pendant la semaine. Quand vous faites votre culte personnel, à un moment donné, on vit des choses, puis on se dit, écoutez, laissez-moi le mettre plus simplement que ça. Vous souffrez. Vous êtes dans une situation où vous souffrez. Puis à un certain moment donné, tout le monde, ça nous arrive, on a la pensée, on se dit, « Oh mais Dieu, tout est au ciel, tout est au ciel, puis t'es comme t'es au-dessus de tout ça, puis tu sais où ça s'en va, fait que tu peux pas comprendre ce que je vis, tu peux pas être sensé à ce que je vis, t'es tellement bien, toi, tu comprends pas ma misère. » Et à un moment donné, on a de ces pensées-là qui viennent, « Tu comprends pas ma misère à moi. » Dans des moments de tristesse, de découragement, on a des pensées comme celles-là. Et ce qu'on est en train de soulever, c'est, est-ce que Dieu est vraiment comme affectable? Est-ce qu'on peut vraiment l'affecter? Des théologiens comme Jean Calvin, comme Martin Luther, ont conclu que non. Dieu est Dieu, puis ça c'est une forme de langage, c'est une figure de style ici, où Dieu veut juste qu'on voit l'importance du péché, admettons. Alors, une manière qu'il pourrait saisir ça, c'est qu'il dirait au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit n'est pas vraiment attristé, mais Dieu veut qu'on comprenne comment on devrait se sentir face au péché. Alors, il va prendre un langage que nous comprenons, être attristé, pour nous parler de comment on devrait se sentir. Maintenant, ça, c'est ce que certains théologiens ont compris. Je ne suis pas d'accord avec eux, je veux le dire, pour qu'on se rende à la suite. D'accord? Oui, Suzy. Jean Calvin, Alors, je vais juste répéter, là. Lorsqu'on pêche, on brise quelque chose dans notre relation avec l'Esprit-Saint ou avec Dieu, et ce langage-là de tristesse, est-ce que ce serait pas pour exprimer le fait qu'on a coupé quelque chose dans la relation? Je reflète bien ta pensée. Jean Calvin irait un peu dans ce sens-là. Okay? Il dirait, le Saint-Esprit vit pas une tristesse vraiment, mais il est comme en train de t'informer. Là, je vais dire quelque chose qui tient pas du tout, c'est juste une illustration. Si tu étais connecté à 100% à l'esprit, ben quand tu as fait ça, tu viens de descendre à 80. Puis continue, tu vas descendre à 60. Puis c'est juste une information qu'il veut te donner parce qu'il n'est pas vraiment affecté. Jean Calvin irait dans ce sens-là. C'est une information qu'il nous donne. G.I. Packer, là je m'en vais vers l'autre position. G.I. Packer qui a écrit « Connaître Dieu ». Je ne sais pas si certains l'ont déjà lu, mais c'est un théologien très connu. D'ailleurs, vous devriez lire ce livre-là si vous ne l'avez pas déjà lu. C'est vraiment excellent. G.I. Packer, qui est un de nos contemporains, qui a énormément de respect pour Calvin, d'accord? Ça ne veut pas dire que tous ces gens-là ne se respectent pas, là, et pour Luther. Mais Packer dit non. C'est si Dieu ne vit pas vraiment ces bouleversements-là à une certaine échelle, comment est-ce qu'on peut penser que Dieu nous aime profondément? Comment est-ce qu'on pourrait penser que Dieu vit de la colère face au péché véritablement? Ce serait tous des langages pour nous aider à comprendre qui est Dieu avec des mots qu'on connaît, mais qui ne seraient pas vraiment ceux que Dieu vit. Et non, Dieu vit absolument ces choses-là. Ce n'est pas juste un langage pour nous aider à comprendre ce qu'un être spirituel vit, même si ça ne ressemble pas du tout à ce que nous vivons. Tournez avec moi, s'il vous plaît, à la page 3. On est affecté, oui. Madame Soulian fait la comparaison pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le cœur de Dieu en disant, moi comme parent, si mon enfant fait quelque chose de mal ou si, même s'il fait quelque chose de dangereux pour sa propre vie, je vais être affecté, je ne vais pas être indifférent à ça. Dans le fond, la question c'est, et laissez-moi vous l'illustrer autrement, quand on lit dans les Écritures que Dieu penche son oreille vers nous, on comprend tous que c'est un langage de style. Il n'y a pas une oreille d'un kilomètre carré qui descend tranquillement vers moi, vous comprenez? On appelle ça de l'anthropomorphisme. Dieu prend des langages qui ressemblent à l'homme, anthropos, l'homme, pour nous aider à comprendre la relation qu'il a avec nous. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi. Vous comprenez, je n'ai pas une oreille, l'oreille de Dieu immense qui se penche vers moi. C'est un anthropomorphisme. On arrive devant puis naturellement on dit, c'est une figure de style, là. Il est en train de nous aider à comprendre qu'il nous écoute. C'est ça qu'il veut nous dire, il nous écoute. Mais Dieu est esprit. Alors, est-ce que vous voyez, Mme Soulière, vous pensez que Dieu penche sa grosse oreille vers vous? Est-ce qu'il y a des oreilles physiques? Est-ce qu'il y a des oreilles physiques? Alors, vous voyez, si vous allez assez loin, vous allez avoir cette image du grand papa Dieu, là, qui est assis physiquement, puis c'est Dieu le Père, il serait physiquement comme ça. C'est clair, selon les Écritures, Dieu le Père, c'est un esprit. D'accord? Donc, on va comprendre lorsqu'il va parler de ses oreilles, de ses mains, qu'il nous prend dans ses mains, que c'est une figure de style, pour nous dire que vraiment, il nous écoute, puis vraiment, il prend soin de nous. Et la question qu'un personnage comme Jean Calvin va se poser lorsqu'il arrive devant le verset 30, il va dire, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il vit vraiment des émotions ou il veut juste qu'on comprenne un peu ce qui se passe en lui? C'est encore de l'anthropomorphisme. Ça, c'était une compréhension. G.I. Packer, au haut de la page 3, estime que c'est fondamental de reconnaître que Dieu vit de véritables émotions et qu'il peut être attristé. Autrement, les autres émotions qui sont importantes pour nous, comme l'amour, la colère de Dieu contre le péché, est-ce que ce serait vraiment des choses qu'il vivrait si la tristesse n'était pas vraie? Ainsi, ces théologiens feront plutôt une distinction entre des passions et des sentiments. Et c'est là qu'on va faire la distinction entre l'être humain puis Dieu. Dieu ne vivra pas des passions. Il ne sera pas poussé par ses passions comme nous. Il n'a pas les luttes que nous avons avec le péché. Donc, il ne va pas poser des gestes irréfléchis. Si Dieu était tellement humain que, je ne sais pas moi, quelqu'un pêche, puis là, Dieu s'emporte, puis boum, il détruit. Puis là, il se réveille le lendemain matin, puis il dit, « Oh, c'était pas dans mon plan, ça, mais là, en bon québécois, j'ai pété une coche. » Comprenez? Ce qu'on assiste avec Moïse, lorsque Dieu s'adresse à Moïse, puis il dit, « Tasse-toi de là, je rase tout le monde. » Mais lorsqu'on lit les Écritures, on dit, « Cette expression-là de sa colère, c'était dans son plan. » Il n'y avait pas de surprise. Dieu n'est pas comme... Il n'a pas perdu le contrôle de ses émotions ici, là. Non, c'est Dieu. Il sait ce qu'il est en train de faire et il devait y avoir cette intervention avec Moïse. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire la distinction. On va dire Dieu n'est pas dominé par ses sentiments, mais il va vivre des sentiments qui sont similaires à ceux qu'on va vivre. À la lumière du témoignage biblique, nous préférons nous en tenir à ce que la Bible affirme et reconnaître que Dieu aime. Il se met en colère, éprouve des sentiments, bien qu'un mystère demeure à savoir comment Dieu accomplit toujours ses desseins à la perfection, s'il peut être attristé ou affecté par l'homme. Il y a un élément qui est mystérieux. Je ne voudrais pas m'étirer plus que ça là-dessus parce que je comprends que c'est très théorique pour certains d'entre vous. Là, puis vous dites, « Boy, qu'est-ce qu'on va tirer de ça ce matin? » Oui, Sylvain. Oui. Oui.
L'amour, tu peux tout voir dans ça. Tout au début, il montre qu'il y avait quelque chose.
Que Dieu était déjà profondément affecté par le choix que l'homme avait fait. C'est ça. Alors, ça reste mystérieux. Dieu est affecté. Moi, je crois clairement que Dieu est affecté. Puis en même temps, Dieu n'est pas transformé par ces choses-là. Dieu ne perd pas le contrôle comme nous, on veut perdre le contrôle. OK, avant de regarder le passage de Éphésiens 4:30, je veux juste vous amener dans un passage dans l'Ancien Testament qui est vraiment comparable. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça nous aide à comprendre un peu plus comment Dieu peut être affecté par nos péchés. Ésaïe 63, 10 à 14. Je vous ai mis le passage ici. Vous pourrez prendre le temps d'aller le lire. Je trouve que de prendre le temps de lire ce passage-là nous encourage énormément à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas attrister l'esprit. D'accord? Dieu, à travers son prophète, est en train de parler à Israël. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea à travers des flots comme un coursier dans le désert sans qu'ils bronchassent? Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Alors, on est dans l'Ancien Testament. L'Esprit Saint n'a pas été donné à chaque croyant. D'accord? Je ne reviendrai pas sur toute cette idée-là que chaque chrétien reçoit l'Esprit Saint en lui-même. Mais l'Esprit Saint était au milieu du peuple d'Israël et conduisait le peuple d'Israël. Et on trouve dans ce passage-là une réaction similaire chez l'Esprit Saint à celle qui nous est parlée dans Éphésiens 4. L'Esprit Saint a été attristé par la rébellion d'Israël. Et là, ça va assez loin. Il nous est dit, il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Donc, Dieu est constant. Dieu est cet être-là qu'on peut affecter par nos péchés. Là, la question que nous allons nous poser, qu'est-ce que ça veut dire lorsque ce Dieu-là habite en moi? C'est une chose, l'Esprit qui était avec le peuple, qui conduisait le peuple, puis qui pouvait être attristé, puis qui pouvait devenir leur ennemi. Maintenant, si je suis un enfant de Dieu et que j'ai reçu l'Esprit Saint habite en moi. Et dans un sens, comme on le dit des fois, Lorsque je pêche, je le force à être témoin de certaines choses. D'accord? Éphésiens 4:30. En fait, je pense qu'une bonne partie de la réponse pour comprendre pratiquement ce que ça veut dire se trouve en survolant les versets 1 à 32. Voyez-vous, lorsqu'on regarde juste le verset 30, tout ce que ça dit, c'est « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Puis là, il y a d'autres exhortations pratiques. Cette phrase-là est au milieu d'une série d'exhortations pratiques. Ça a commencé beaucoup plus tôt, verset 25, « Renoncez aux mensonges, que chacun de vous parle selon la vérité. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille. » Paul est en train de donner toute une série de directives très, très, très pratiques. Voici comment on devrait se comporter. C'est simple, c'est clair, c'est pratique. Une de ces directives-là se trouve au verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Puis il continue ses exhortations pratiques, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie. C'est une des exhortations pratiques. On n'a pas beaucoup d'informations, qu'est-ce que ça veut dire, comment on s'arrange pour ne pas attrister l'esprit, comment on s'arrange pour vivre le contraire de ça. Pardon? Les fruits de l'esprit, OK. OK. Alors, je serais d'accord pour dire, lorsque je suis rempli de l'esprit, ce que je vais faire, au contraire de l'attrister, je vais porter des fruits de l'esprit. Je vais vivre de la joie, de la paix, tout ça, définitivement. Est-ce que le texte ici nous permet de comprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'est attrister? Ça va dans ce sens-là. Regardez avec moi le début du chapitre 4. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Le thème ou le sujet du Saint-Esprit au milieu de l'Église est déjà commencé beaucoup plus tôt dans le chapitre. Et là, la directive qui nous est donnée, ou l'exhortation qui nous est donnée, c'est vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Il vient de dire comment, verset 1-2, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre appel. Hein? » En toute humilité et douceur, ça parle de nos rapports les uns avec les autres. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, ça parle de nos relations les uns avec les autres. Et le but de ça, pourquoi est-ce qu'on va être humble dans nos rapports, pourquoi est-ce qu'on va être doux, pourquoi est-ce qu'on va être patient quand j'ai un frère qui vient, qui fait quelque chose qui m'irrite, qui m'agresse ou qui je sais pas. Il est orgueilleux, puis là, moi, je vais répondre avec patience, avec du sang. Le but de ça, c'est de conserver l'unité de l'esprit. Le but de ça, c'est que l'unité de l'esprit au milieu de nous ne soit pas brisée. Et le lien qui va garder tout ça, ça va être l'amour. Donc, je viens le dimanche matin, puis il y a 3-4 personnes que lorsque je les vois, je vais juste m'assurer d'aller me passer dans une autre section. Oh non, pas celui-là. Puis à un moment donné, il y en a tellement de tous ces petits détours-là à faire pour réussir à aller trouver mon siège le dimanche matin que je décide de changer d'assemblée. Ça se peut-tu? Ça peut-tu arriver, ça? À un moment donné, il y a tellement de toutes ces... Vous voyez, je m'en vais m'asseoir à ma place, mais là, je ne peux plus passer par là parce que lui est là. Fait que je vais passer par cette... Ah, mais là, elle est là. Fait que je vais aller passer par cette allée-là au lieu... Mais là, écoute, je vais changer d'église. Je vais aller ailleurs. Je ne peux même plus me trouver une place pour m'asseoir. C'est pas mal de ça qu'il parle ici, là. D'accord? Il parle de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, ça, c'est les versets 1, 2 et 3. Ensuite de ça, il développe l'idée, il y a un seul corps. Ça fait du sens. On veut garder cette unité. S'il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, je Je m'en vais un petit peu plus loin. Après ça, il va parler de comment cette église-là est organisée un peu. Il nous parle des dons. Alors, il dit, il y a des hommes qui ont été donnés à l'église pour pouvoir contribuer au perfectionnement des saints, pour que l'église grandisse de plus en plus à l'image de Christ. Alors là, vous êtes dans les versets 11 et suivants. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, on est encore dans cette idée d'unité, là, de communion, où on est en train d'avancer ensemble dans une même direction. Là, il nous explique un peu comment ça fonctionne. Dieu a donné certaines personnes pour équiper l'Église dans cette direction-là. Il nous a parlé d'une part de nos attitudes pour garder l'unité, des gens qui ont été donnés pour équiper, pour avancer dans cette direction. Lorsqu'on arrive dans les versets 17 à 24, là, c'est comme s'il va s'adresser aux individus, un peu. Et là, il dit, bon, bien, maintenant, chacun d'entre nous, on doit marcher d'une manière nouvelle. On a eu un appel, il l'a mentionné au verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre vocation. » On a eu un appel en Christ, si on est en Jésus-Christ, nous avons eu un appel à vivre autrement. Bien, verset 17. Voici donc ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Alors, ça, c'était votre ancienne manière de vivre. Maintenant, vous avez eu un appel, vous avez une vocation, vous êtes appelé à vivre autrement. Vous ne devez plus vivre comme eux, vous devez marcher autrement. Verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. » Ce que je voudrais faire ressortir jusqu'ici, c'est que mon cheminement à moi comme individu pour être de plus en plus transformé à l'image de Christ, dans ce passage-là, dans ce chapitre-là, n'est pas détaché de ma relation avec l'Église et de ma marche avec l'Église. Est-ce que vous voyez que cette unité de l'esprit qu'on est censé conserver dans l'Église, qui va être le fruit de notre humilité, de notre patience, de notre douceur, de notre amour, cette unité-là est composée aussi de plein d'individus qui sont en train de marcher dans un nouveau style de vie. Si je reprends mon illustration tout à l'heure, qui est un peu simplette, mais qui est quand même vraie, si moi, comme individu, je perds de vue le fait que je suis censé marcher dans l'unité avec l'Église, d'accord? Mais quand je m'en viens comme individu à l'Église, puis je dis, « Ouais, je ne peux pas aller m'asseoir là, lui, je ne suis plus capable d'y parler. » Celui-là, ce n'est pas ça, c'est juste que je suis un peu mal à l'aise, j'ai de la difficulté à louer le Seigneur à côté de lui. Puis, ah non, tu sais, en fin de compte, ça, c'est ma relation avec l'ensemble de l'Église, mais avec ce qu'on vient de voir, c'est l'homme nouveau aussi là, qui est affecté, là. Je suis censé me revêtir de l'homme nouveau. Et me revêtir de l'homme nouveau, c'est probablement d'avoir réglé mon conflit et de dire, hey, moi, je peux m'asseoir n'importe où ici un matin. C'est cool. Je suis en paix avec tout le monde ici. Je peux m'asseoir n'importe où. Puis si je ne suis pas en paix, bien, je vais aller m'asseoir à côté de lui, justement. Priez pour que le Seigneur permette qu'on ait une conversation ensemble. Voyez-vous? Alors, c'est pas détaché. Ma transformation comme homme nouveau, comme femme nouvelle en Christ et l'unité dans l'Église. Maintenant, pourquoi est-ce que je voulais vous montrer la continuité? C'est parce que lorsqu'on arrive après dans les versets 25 à 32, la majorité des exhortations, ce sont des exhortations qui ont un impact sur les uns les autres. Verset 25. « Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » On parle de nos relations ensemble. « Hey Jacob, ça va bien? Je suis content de te voir. » Menteur. Parlez selon la vérité. « Jacob, il faudrait qu'on aille prendre un café ensemble. » Je suis mal à l'aise depuis quelques temps. Puis je ne sais pas, peut-être que c'est moi. On va aller prendre un café ensemble. C'est nos rapports les uns avec les autres. On parle d'unité de l'esprit, d'accord? Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est ça son argument. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. On peut comprendre l'impact que ça va avoir sur ma communion avec les frères et sœurs. Verset 28. Il parle de vol, mais pas dans une perspective individualiste. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Point. Là, je suis dans une perspective capitaliste, individualiste. Tu volais, c'est pas payant. Arrête de voler, travaille, ramasse de l'argent, puis installe-toi. Non, c'est pas ça son idée. Regardez qu'est-ce qu'il dit ensuite. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ouf, on vient de changer complètement la perspective. Tu es un voleur, okay, arrête de voler, travaille, puis tu vas avoir de quoi pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'est un but communautaire. Tu travailles pas vraiment dans le but de t'installer ici pour l'éternité. Là. Tu travailles dans le but, hein, c'est ça que Paul va dire ailleurs. Dis aux riches que Dieu leur a donné des richesses afin qu'ils fassent preuve de libéralité avec leurs richesses. Donc, c'est un but communautaire. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. On est encore dans la construction qui communique une grâce. On est encore dans l'édification du peuple de Dieu. Toutes les exhortations vont dans ce sens-là. Je ne pêche pas parce que je veux être bien dans ma peau. Ça ne va pas dans ce sens-là dans Éphésiens 4. Je ne pêche pas parce que je veux être transformé à l'image de Christ et édifier le corps de Christ. Ce n'est pas un but individualiste. Alors, lorsque j'arrive au verset 30, puis regardez les versets qui suivent, on va sauter tout de suite à 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent dans votre cœur. C'est pas ça qu'il dit. Du milieu de vous. Moi, je suis bien. Moi, je suis en paix avec moi-même. Tout va bien, je suis bien avec moi. C'est juste quand je suis avec l'Église, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. C'est parce qu'il y a de l'animosité au milieu de vous. Fait que tu ne la vois peut-être pas dans ton cœur, mais quand tu es avec un frère, oups! Non, mais c'est pas moi. Non, c'est juste entre toi et lui. Mais c'est pas toi. C'est entre toi et elle, c'est ça. Mais c'est pas toi. C'est correct. Alors, Paul, il dit, je veux qu'elle disparaisse, celle qui est au milieu de vous. Fait que toi, tu es bien dans ta peau, arrange-toi pour qu'il n'y ait pas de malaise aussi lorsque tu es avec un frère ou une sœur. Ça ne peut pas être plus concret. Il n'y a comme pas d'échappatoire. D'accord? Je m'en vais à mon petit groupe, puis je sais pas, c'est pas édifiant. Je sais pas, c'est un club social, cette affaire-là. Ça ne me tente pas d'y aller, puis j'ai pas le goût d'être là. Il y a quelque chose, hein? Oui, mais quand je suis chez moi, je suis bien, tu sais. C'était pas ça le but. C'était pas que tu sois bien chez vous. C'était que l'Église soit édifiée et à l'amour qu'il y a au milieu, hein, que vous avez les uns pour les autres, ceux du dehors vont dire, aïe, ça c'est une communauté de gens différents. Si je vous donnais $1 milliard, une fois que vous auriez trippé avec votre argent, là, moi je pense que n'importe qui est capable de devenir super généreux. Alors, donner $1 million à un individu, une fois qu'il s'est amusé avec son argent juste pour lui, il est capable de devenir la personne la plus généreuse sur la terre. Puis là, il va avoir de l'air du meilleur chrétien au monde. Il est généreux, il fait du bien, il est toujours de bonne humeur. Quand il arrive chez eux, il y a son masseur qui fait son petit massage, il n'a pas besoin de tondre sa pelouse, il n'a pas besoin de préparer ses repas. Puis quand il a un petit mal de dos, il y a son médecin personnel qui arrive, puis là, il donne de l'argent. Prenez la même personne, puis mettez-la dans une église, puis dites-lui, maintenant, je veux que tu entres dans des relations profondes avec les gens autour de toi. Hop, il y a des choses qui vont être... Tu sais, il y a beau être millionnaire, on vient de changer bien des affaires. C'est ça le but, là. Le but, c'est pas qu'on ait de l'air cool, gentil, fin, puis beau quand il n'y a aucune épreuve. C'est dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos relations les uns avec les autres. Alors, ma compréhension, c'est que lorsque j'arrive au verset 30, il faut que je le place dans ce contexte-là. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption en gardant de l'animosité, des colères, des calomnies, en volant au lieu de travailler pour avoir de l'argent à donner pour aider ceux qui sont dans le besoin, en manquant d'humilité, de douceur, de considération pour un frère ou pour une sœur, en marchant pas en nouveauté de vie. Je pense que ce que Paul est en train de nous dire, c'est qu'on peut spécialement attrister le Saint-Esprit de Dieu lorsque dans notre relation avec les uns, avec les autres, si moi je néglige de marcher dans ma nouvelle vie, là, je vais affecter plein de gens autour de moi. Je pense qu'en général, on prend ce verset-là dans un but très, très personnel et individualiste. Je me lève le matin, j'ai vécu quelque chose dans mon cœur, j'ai une pensée pas correcte ou les gars ont une pensée impure ou quelque chose comme ça, puis oups, j'ai attristé le Saint-Esprit de Dieu. C'est définitivement vrai que je pourrais l'appliquer comme ça. C'est sûr que je peux l'appliquer comme ça. Je ne pense pas que c'est ça le sens premier du texte. Je peux attrister l'Esprit de Dieu lorsque je néglige d'être pour l'Église tout ce que je suis censé être, en étant un homme nouveau. Mais comme communauté, notre vie est censée être différente, puisque chacun d'entre nous, on a eu un appel à marcher à l'image de Christ, nos rapports les uns envers les autres doivent être différents. Et lorsque je vais manquer d'affection, d'amour pour un frère, puis je vais juste le laisser dans son isolement, je suis en train d'attrister l'Esprit Saint de Dieu. Lorsque je manque de partager parce qu'il y a un frère qui est dans le besoin, je suis en train d'attrister l'Esprit Saint de Dieu. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou des commentaires? Michel, qu'est-ce que tu en penses? As-tu de l'allure? Tu vois ça dans le texte? Définitivement que ça demeure que je peux l'attrister. Maintenant, combien de fois on pense à ce texte-là dans le sens de l'unité de l'esprit dans l'Église? Combien de fois dans notre propre vie, c'est comme ça qu'on le voit? Et donc, j'irais jusqu'à dire que si je suis chrétien, Dieu m'a donné des dons, et si je néglige de les placer au service de la communauté, probablement que je ne suis pas en train d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. Probablement que je ne viens pas au secours de quelqu'un qui aurait besoin d'être consolé. D'accord? Ce qu'on voit avec les hommes que Dieu a donnés à l'Église, c'est dans le but que ces hommes-là travaillent au perfectionnement des saints afin que l'Église fasse l'œuvre du ministère. Alors, lorsqu'un individu dans l'Église reste dans son coin et il n'est pas en train de servir la communauté, il est en train de garder des dons pour lui au lieu de les mettre au service de la communauté, je pense que ça va aussi dans ce sens-là. D'accord? On ne voit pas cette unité, cet amour, cette affection au milieu de nous. Oui. Et si je comprends bien le texte, bien lorsque je cherche à vivre ma vie avec l'Église comme il faut, je suis en train de m'occuper de ma sanctification. Parce que c'est sûr que si Sylvain et moi, on décide de servir dans un ministère ensemble, à fond pour les 3 prochaines années, on va s'accrocher. On va avoir des divergences. À un moment donné, je vais regarder Sylvain et je vais dire, je sais pas, mais j'ai l'impression que je suis tout seul à tirer sa charrue. Vous comprenez? Mais quand je suis en train de faire ça, puis là, on règle notre conflit ensemble, est-ce que je suis en train de m'occuper de ma sanctification? Définitivement. À 100%. Donc, je vais m'occuper de l'homme nouveau en moi qui doit être formé en étant dans la communauté puis en cherchant l'unité de l'esprit. Et donc, je voudrais vous inviter à considérer, à être à l'écoute puis dire, est-ce que il m'arrive d'attrister l'esprit en négligeant de poursuivre la construction de cet édifice-là que Christ est en train de bâtir, en négligeant ma relation avec les frères et sœurs. Oui, Hélène. Ma réponse, ça serait non. C'est juste... Moi-même, là, en faisant l'étude à travers les semaines, en réalisant que dans 1 Thessaloniciens 5, Paul est probablement en train de dire qu'éteindre l'esprit, c'est éteindre des choses que Dieu est en train de nous dire, éteindre une œuvre que Dieu est en train de faire dans l'Église. Fait que si tu le prends dans ce sens-là, oui, OK. Mais si je suis en train de dire, je veux voir l'esprit comme une flamme, hein, tu sais, c'est la flamme de feu qui descend, puis là, cette flamme-là vient en moi, puis si je néglige un peu l'Église, je vais l'attrister un peu, puis là on fait un lien, là, entre éteindre puis attrister, hein, fait qu'attrister, tu sais, puis l'éteindre finalement. Non, je pense pas que ce serait biblique de dire ça. Parce qu'éteindre l'esprit, ce que je comprends dans 1 Thessaloniciens 5, c'est de m'opposer à une œuvre de Dieu, et ça parle beaucoup de ce qui se passe ici. Donc, ça voudrait dire, si je veux faire un lien avec ce que tu dis, c'est que si plein d'individus ici tolèrent des relations qui sont avec un peu d'amertume, un peu de corde sur le cœur. Tu sais, il y a beaucoup de détours à faire quand tu vas t'asseoir le dimanche matin pour pas parler à lui puis à elle puis tout ça. Mais si tous ces gens-là attristent l'esprit et que lorsque Dieu est en train de parler à l'assemblée, ils peuvent pas recevoir à cause de ça, ben dans ce sens-là, probablement que l'œuvre glorieuse que Dieu veut faire avec l'Église de l'espoir, on est en train de l'éteindre. Parce que là, à un moment donné, mon Alexandre s'en vient en avant avec un projet pour l'évangélisation. Puis il dit « Let's go les boys, on s'en va là-bas ». Mais il y a tellement de monde qui sont pognés avec toutes sortes de crottes sur le cœur puis d'affaires comme ça, qui ne sont pas capables d'écouter l'Esprit-Saint parler. Puis non, il reste assis là. Dans ce sens-là, ben l'Esprit est en train de faire une belle œuvre au milieu de nous puis on est en train de l'éteindre. Fait qu'il y a un lien. Il y a un lien. Mais ce que ça a clarifié pour moi de faire l'étude à travers les différentes semaines, c'est que je ne vais pas faire un lien, dire « tu peux être rempli de l'esprit, tu peux l'attrister, tu peux finalement l'éteindre ». C'est des textes qui parlent de différentes réalités qu'on va vivre dans la communauté de l'Église. Je m'en vais dans un petit groupe, si je veux le transposer dans un petit groupe, je suis dans un petit groupe, et puis à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui partage quelque chose, puis oups, il y a quelqu'un d'autre qui partage quelque chose d'autre, puis « Oh, c'est intéressant, là, on est en train de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant, très édifiant, mais il y a quelqu'un d'autre qui est mal à l'aise avec ça. » Décide de faire une petite blague. On vient de passer à un autre sujet. 1 Thessaloniciens 5, j'aurais tendance à dire ça, c'est 1 Thessaloniciens 5. Tu viens d'éteindre l'œuvre que l'Esprit est en train de faire au milieu de vous. Là. Tu viens de couper quelque chose. Là. D'un autre côté, je ne vais pas au petit groupe parce qu'il y a quelqu'un que je n'ai pas le goût de voir de ce temps-ci. Je suis en train d'attrister le Saint-Esprit. Je suis en train de l'attrister parce qu'il veut nous édifier ensemble. Il veut nous construire ensemble. Fait que je pense que ça s'applique à plein d'échelles. Ce n'est pas juste le dimanche matin. Attrister l'esprit, ainsi nous sommes appelés à marcher ensemble, humblement, en nouveauté de vie, individuellement à l'image de Christ. Nous sommes appelés à entretenir de nouveaux rapports les uns avec les autres selon l'exemple de Christ. Et toute attitude, tout comportement qui s'opposerait à cette unité et à cette marche nouvelle attristerait l'Esprit-Saint qui cherche à produire toutes ces belles transformations dans nos vies et dans notre communauté. Puis j'ai juste essayé de résumer qu'est-ce que je veux faire si je ne veux pas attrister l'Esprit-Saint. Nous nous garderons d'attrister l'Esprit en adoptant une attitude humble les uns envers les autres. Nous nous garderons d'attrister l'esprit en refusant de vivre selon notre ancienne vie. Ça, il y a un élément aussi assez individuel. Nous nous garderons d'attrister l'esprit en manquant de faire grâce aux frères et sœurs qui nous blesseront et nous offenseront par moments. Enfin, nous nous garderons d'attrister l'esprit en nous efforçant de bénir et d'édifier les frères et sœurs par nos paroles et nos actes de bonté. C'est bon? La semaine prochaine, on parle de la plénitude du Saint-Esprit. On va terminer par un mot de prière. Seigneur Jésus, une des choses que je veux retenir personnellement de toute cette étude, c'est que nous voulons chercher des œuvres de ton esprit dans des moments magiques, des moments spéciaux où on voit quelque chose de surnaturel se manifester. Et ce qui me frappe énormément avec toutes ces études, c'est qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se produit lorsqu'on s'aime les uns les autres. Il y a quelque chose de surnaturel qui se produit lorsqu'on persévère à s'aimer, à se pardonner, à ne pas garder d'amertume, à se servir, à se donner les uns aux autres, à marcher dans un nouveau genre de vie qui n'est pas une vie égoïste, mais qui est une vie de communauté, une vie généreuse. Et ça, c'est surnaturel. Et ça, c'est une œuvre de ton esprit. Je te prie, Seigneur, pour notre assemblée. Cette assemblée qui est composée d'individus qui vivent toutes sortes de luttes, de combats, de bénédictions, d'épreuves personnelles, mais cette Église qui est une communauté. Et Seigneur, c'est notre désir, certainement notre désir, de voir l'œuvre de ton Esprit-Saint dans nos rapports les uns avec les autres, dans notre manière de prendre soin les uns des autres, de nous inquiéter, de prier les uns pour les autres, de nous encourager par nos paroles, de nous édifier par une parole gentille et encourageante. Viens Seigneur nous montrer si nous avons attristé ton esprit d'une manière quelconque, afin qu'on puisse se repentir, Seigneur. Viens nous montrer quotidiennement comment ne pas attrister ton esprit dans nos rapports les uns avec les autres aussi, Seigneur, et dans nos vies individuelles. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est magnifique et ce beau projet qui est l'Église. C'est ton épouse, Christ. Tu es mort sur la croix pour Yannick Étier, mais tu es mort sur la croix afin qu'Yannick soit membre de ce corps glorieux pour cette Église. Sois béni. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Merci, ça me fait plaisir.